Ladies and gentlemen, Federico Fellini.
Christine Masson.
Laurent Delmas.
Please, sit down.
Aujourd'hui à 17h.
France Inter. La différence.
Bientôt 15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut Daniel, je voulais juste te signaler qu'aujourd'hui je suis en congé. Oui, je suis en congé. Et si ta question est pourquoi je suis en congé, ma réponse est parce qu'aujourd'hui ma femme l'est aussi. Et pourquoi ta femme l'est aussi? Ben ça c'est grâce à La Poste, la petite entreprise familiale bien connue de tous, dont tu nous as parlé récemment. Ben, c'est vrai, on s'y voyait avec ma femme, hein. Super l'émission. Elle travaille dans une petite agence de campagne, tu sais, celle où les oiseaux chantent et les postiers sifflotent. Et figure-toi qu'elle a un chef d'agence extraordinaire qui applique la méthode de management, mais alors à la lettre. Hein. La journée commence par un petit entretien sympathique avec son conseiller financier pour mettre en avant les résultats du bureau. Bah alors, t'as pas fait d'épargne logement ce matin, t'as pas fait d'assurance vie hier, mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas fait de prévoyance non plus, mais vraiment, faut revoir cette situation, hein. Je compte sur toi pour redresser la situation. C'est quand même pas compliqué de faire signer un contrat d'assurance vie, un plan d'épargne logement, tu coupes ça avec un compte épargne en action, et le tour est joué, tu rajoutes les services internet, hein. Qu'est-ce que tu fous, hein? T'es 25 entretiens par semaine? Quoi, t'as plus le temps de gérer les dossiers? Mais c'est ton problème, ma chérie. Allez, faut faire un effort, là, tu fais déjà 9 heures par jour. Bah, vraiment, t'es pas doué, hein. Et Daniel, au bout d'un an, Daniel, écoute bien, miracle, ça marche. Mais oui, diagnostic du médecin, arrêt pour anxio-dépression. C'est pas formidable cette méthode? Eh oui. Comment elle est aujourd'hui? Elle n'est pas en pleine forme, elle a envie de vomir, elle dort plus la nuit, elle n'arrive même plus à se concentrer. Bah, je comprends pas, elle est même parfois un brin irrité, tu vois, quand une mouche qui passe. Vraiment, j'arrive pas à comprendre, pourtant on est en vacances. Alors j'espère qu'un représentant de Medivery va passer, parce que là, sinon, il n'y a rien qui va. Hein. Allez, salut Daniel, on vit une époque formidable.
Bonjour, message d'information pour les usagères et usagers de La Poste qui envoient du courrier en Vendée. Le centre de tri de La Roche-sur-Yon n'existe plus en tant que tel. Tout le courrier destiné à la Vendée est maintenant trié au centre de tri de Nantes, même celui expédié de ce département. C'est très écolo, surtout pour un établissement public qui donne des leçons de développement durable. Mais ce n'est pas le pire. Les agents de Nantes n'ont reçu aucune formation. Nous n'avons appris aucun des codes postaux. Nickel, petits bureaux dépendent des bureaux distributeurs. Nous passons notre temps à chercher où certaines petites villes vont en levant la tête pour consulter le tableau au-dessus du casier de tri. Bonjour le rendement et merci pour les cervicales. N'ayant que très peu de connaissances, nous nous fions au code postal. S'il est faux, la lettre part en fausse direction. Alors un conseil, si vous écrivez en Vendée et n'êtes pas sûr du code de la localité, ne mettez que le numéro du département. Nous sommes obligés du coup de consulter le tableau. Mais le mieux pendant quelques mois est encore d'éviter d'écrire. Si vous habitez près de votre correspondant, allez le voir ou envoyez des signaux de fumée. Si vous demeurez trop loin, préférez le téléphone ou internet, ce sera plus rapide. Si vous trouvez que votre courrier a mis du temps à vous parvenir, n'hésitez pas à écrire à la direction départementale 44 85 2 rue Viviani, 44 928 Nantes Cedex 9 pour protester. Quand on a un minimum de conscience professionnelle, c'est une situation révoltante. Mais comme dit le dicton, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut plomber un service public, on ne donne pas les moyens à ses agents de faire du travail correct. Pour des raisons professionnelles, je ne me citerai pas. Au revoir.
Bonjour, c'est encore Jean-Marc de Martigues qui vient vous informer pour la troisième fois du combat des facteurs Martégaux contre la machine à broyer postale. 3 semaines de grève majoritaire sur le bureau. Cela fait maintenant 17 jours, ce vendredi, que Sébastien a cessé de s'alimenter, mettant maintenant sérieusement en danger sa santé. Pour quel résultat? Presque rien. Quelques avancées sur les sanctions disciplinaires, mais rien concernant les conditions de travail. Il faut savoir qu'avec la nouvelle organisation, les facteurs font de 1 à 3 heures supplémentaires par jour que la Poste refuse de payer. Toujours la même arrogance. Toujours le même mépris. Et le mensonge en prime. Par exemple, les relevés d'heures des facteurs qui établissent ces dépassements quotidiens ont bizarrement été égarés par la direction. C'est grotesque. Voilà. Ces postiers, dont certains sont dans des situations économiques précaires, se battent avec courage et avec dignité. Et ils ont vraiment besoin de votre soutien. Si vous êtes dans le coin, passez les voir. Ils campent devant le bureau de poste de Ferrières 24 heures sur 24. Merci.
Ouais, salut à toute l'équipe de Daniel Mermet. C'est Georges de Tétin, là. Je vous appelais parce que votre émission d'aujourd'hui, là, elle m'a rappelé quelques bons petits souvenirs de l'époque où j'étais à l'armée. Et j'étais à Berlin au moment où le mur a été ouvert. On avait commencé, on était en manœuvre, et donc on avait commencé par garder le mur. Et puis ensuite, le mur a été ouvert, donc il n'y avait plus rien à garder, évidemment. Mais on a fait quelques bonnes fêtes avec des gars de l'Est et c'était, voilà, c'était un bon souvenir.
Oui, bonjour Daniel, je viens d'écouter ton émission sur France Inter et c'est intéressant. Je connais un peu Berlin, mais je connais plus l'Allemagne de l'ex-Allemagne de l'Est, disons l'Allemagne profonde. Alors ce que je te suggère tout simplement, c'est qu'il serait intéressant que tu fasses une semaine de reportage dans l'Allemagne profonde, dans les villages où par exemple les coopératives de production agricole ont disparu, à Rostock, Warnemünde, où l'arsenal va bientôt laisser sur le carreau trop de gens, dans les villes moyennes du Grand Est, où beaucoup de gens se sont expatriés vers l'Ouest pour essayer de trouver du travail, et à quel prix. Ça serait intéressant pour voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients du capitalisme par rapport au collectivisme, et surtout donner une image de l'Allemagne où il y a encore pas mal de résistance et pas mal de d'affrontements, on pourrait dire, même au sein des familles, pour ce qui concerne l'Est et l'Ouest. Je te suggère ça parce que je suis marié avec une ex-allemande de l'Est et donc je vois les problèmes au jour le jour, au quotidien, dans un village de 300 habitants qui est au nord de Berlin, à peu près à 150 km. Voilà, au revoir, c'était Georges.
C'est ballot ça, c'est ballot Georges, qui n'a pas laissé son numéro de téléphone dans la boîte vocale de la Bastille, j'y suis, parce qu'on l'aurait rappelé et ça nous aurait été utile peut-être de rencontrer cette famille. Nous sommes arrivés à Berlin, en effet, il y a quelques instants, il fait très beau, c'est l'automne à Berlin. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, vous avez compris, vous devinez, 20 ans après, nous revoilà. Et on va essayer de, eh ben, de raconter un peu et de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ce qui est très ambitieux parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en 20 ans. Et c'est drôle parce que tout de suite, à peine arrivé, on retrouve ce qu'on appelle les vitze. Les vitze, c'était des blagues plus ou moins lourdes et plus ou moins fines, mais qui remontaient le moral, non seulement évidemment en RDA, mais dans tout le bloc de l'Est. Des blagues du genre « qu'est-ce que le capitalisme ?» C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, c'est le contraire. Ou bien des blagues sur Erich Honecker, qui était le dirigeant de la RDA, qui un jour dit « allez hop, on ouvre le mur !» Et on ouvre le mur, mais autour de lui, on dit « mais non, mais oh, ça va pas !» Et pourquoi vous voulez ouvrir le mur ? Et il dit « parce que j'ai envie d'être seul !» Alors ça faisait hurler de rire et ça maintenait le moral. Donc voilà, aujourd'hui, on revient dans la Basse, j'y suis 20 ans en arrière. 20 ans, il y a 20 ans, la Basse, j'y suis était là, ici, où je suis. C'est-à-dire juste après la chute du mur. Et on retrouve les archives de la Basse, j'y suis il y a 20 ans. Une balade dans Kreuzberg, un quartier de Berlin bien connu. Et puis une rencontre avec un intellectuel, Harald Hauser, qui avait 78 ans à l'époque, qui était, lui, du côté RDA, mais qui était un dissident, quelqu'un qui était très critique vis-à-vis du régime dans lequel il avait vécu. Et vous allez voir, il avait deviné quand même pas mal de choses il y a 20 ans. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale verte de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et si Georges nous écoute, eh bien, il laisse son téléphone dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Évidemment, ce ne sera pas diffusé, mais ça pourra nous être utile.
Oui, bonjour, c'est Fabienne Vaccin à l'appareil. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour les AMG, bonjour Daniel et toute l'équipe. Le prochain repère de Cambrai dans le Nord aura lieu le mardi 3 novembre à 20h au Garage Café. Le Garage Café se situe à côté du nouveau commissariat de police. Le sujet en sera la décroissance et l'éco-tartufferie. Je vous souhaite une bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.
Salut, je viens d'écouter l'émission là, sur... la stratégie du choc et le bouquin de Naomi Klein. Et voilà, cette émission, bien sûr, est brillante et la démonstration de cette femme est... Quoi dire, c'est... Oui, c'est... Bah oui. C'est abominablement cynique, mais pourtant, c'est bien. C'est bien notre quotidien. À tous, aux quatre coins du monde. Et puis, j'ai entendu ce texte de Mounia Boudjamal depuis les couleurs de la mort et bah, il nous rend justice à nous tous les deux. À nous, tout le pétail humain que nous faisons écrabouiller perpétuellement à tout moment, de milliards de manières, par toutes les oligarchies du monde. Et putain, Mounia Boudjamal, c'est vraiment un type bien, quoi. Vraiment un type bien, quoi. Un black qui s'est fait écrabouiller la gueule et qui est encore en train de croupir et qui dans une prison et qui dit quelque chose comme ça et à tous, il nous rend justice, et à tous, il nous rend notre honneur. Enfin, voilà, ça m'a super aimé. Et je vous remercie.
Salut, c'est Marie-France du Café Repère de Thouars. Alors, notre prochain rendez-vous est lundi 2 novembre au Café des Arts, 53 rue Saint-Médard, et ce sera à partir de 17h30. Qu'est-ce que le développement durable ? Bonne fin de journée à tous.
Pasqua, Chirac, Balladur, Juppé, ça va saigner. Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Solange d'Aveyron. C'est un message pour le répondeur vert, exclusivement. Alors, comme en écologie, j'ai aucune autonomie, je vous lis une brève de Ciné Hebdo de cette semaine. La vie dans la forêt. En Isère, le Conseil régional et le Conseil général vont financer à hauteur de 22 millions d'euros la destruction d'une forêt pour créer un center park sur la commune de Roibon. Conséquence, selon les opposants, abattage de milliers d'arbres, épuisement de la nappe phréatique, destruction de la vie sauvage et de la vie sociale locale. Les élus verts ont voté en faveur de cette subvention au nom de l'emploi.
Un message important pour tous les AMG de la Drôme et de l'Ardèche. Le prochain rendez-vous du repère là-bas si j'y suis de Saint-Péret aura lieu le lundi 9 novembre au lieu du lundi 2 novembre. Nous débattrons autour de la question à quoi sert l'école et quelles alternatives avec comme intervenant M. André Duny. Donc je répète, ça aura lieu le lundi 9 novembre à partir de 20h toujours à l'hôtel Badet. Au lieu de ce lundi 2 novembre. Voilà, c'est décalé d'une semaine. À bientôt, c'était Cyril de l'Ardèche. Ciao.
Bonjour Daniel, Bertrand, apiculteur en Ariège, membre de la Confédération Paysanne. Aujourd'hui, je reviens d'un rassemblement d'apiculteurs hein, devant la cour d'appel de Toulouse pour l'affaire Régent. Tu sais, c'est cet insecticide fipronil dont BASF enrobe les semences. La CONF, l'UNAF, le SNA, la LPO, France Nature Environnement et bien d'autres avaient porté plainte contre BASF pour... destruction du bien d'autrui. Et après que deux juges d'instruction aient été mutés, le troisième juge d'instruction du tribunal de Saint-Gaudens a prononcé un non-lieu en janvier 2009. Nous, on a fait appel, et cet appel s'était défendu aujourd'hui à Toulouse. À la sortie de l'audience, hein, nos avocats, ils n'étaient pas du tout optimistes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre ? Devant des faits avérés et entendus par le ministère, la justice n'ose pas se prononcer. C'est scandaleux. L'abeille est en train de nous dire, hein, en mourant, elle nous dit ça, la pollution insecticide, ça devient insupportable. Moi, je pense qu'il faut qu'on sache l'écouter et qu'on agisse rapidement pour stopper cette dangereuse escalade. Parce qu'on n'arrête pas de dire que l'abeille meurt et qu'il faut faire quelque chose et on fait rien du tout. Ça, c'est pas possible. Il faut arrêter ça.
Guten Tag, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Flight number two. Arriving from...
Il a une cape comme des ailes, il vole au-dessus des villes la nuit, c'est un super héros. Il est masqué comme un vengeur masqué, il a un col en noir avec un rond jaune où on peut voir une chauve-souris. Ouais, vous l'avez reconnu. Avec son bide un peu rond, avec son masque noir, sa marque rouge aussi sur le front, c'est Gorby, c'est Batman Gorby. Et pourquoi ce Batman Gorby est-il sur tous les t-shirts qu'on trouve ici, ce super-héros? Eh bien, tout simplement parce qu'il a ouvert la porte du frigo. Ouais, il a mis le bouton sur la position dégivrage parce qu'il s'était aperçu que son empire était plein de givrés. Alors, il a viré les givrés, il essaye de virer tous ces givrés. Mais maintenant qu'il a ouvert la porte du frigo, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ça toute la question. C'est pour ça que je suis ici à Berlin pour essayer de piger ce qui bouge ici. Je suis ici avec Michel E. Soulier et Ludovic Duneau, Tintin reporter. Et on va se balader aujourd'hui dans ce Berlin des espoirs, des délires, des pleurs, des grincements et des lendemains qui chanteront, mais alors tout doucement, à l'oreille, à l'humain, aux enfants, pas comme ce Berlin, ce grosse Berlin colossal, monumental, tous ces grands frigos de 100 mètres de haut en panne dans des terrains vagues. Oui, ici, très vite, au fond, on en a marre de toutes ces grandeurs crépusculaires, nazis ou stasis. On a envie de se tirer, mais où? Et là, on commence à avoir un sentiment d'enfermement, ce fameux sentiment d'enfermement dont parlent les gens qui habitent ici, dont parlent les écrivains, dont parlent les poètes, dont parlent les musiciens dans cette île au milieu de la mer Rouge. Et c'est là où ce qu'on va aujourd'hui, à Kreuzberg, au cœur de Berlin, dans toutes les cicatrices, les délires, les chaleurs, les décadences, les espoirs. Une balade à Kreuzberg, là-bas si j'y suis, Berlin.
Jeden Abend um die gleiche Zeit, vor der Kasse für den Film bereit. Sternen ganz aus Hollywood, Burger mit Trenchcock und Hut, alles klar. Möchten Sie einen Film mit Marilyn, oder lieber mit James Dean? Ich warte auf das Happy End, am Arm mit Cary Grant, alles klar.
Alors là, Patricia, on est dans Kreuzberg.
Oui, la porte de Cottbus. C'est un peu comme si on sortait de l'Allemagne pour aller en Pologne quand on est par ici. Parce qu'on arrive à la porte de Cottbus qui continue. On arrive ensuite à la porte de Görlitz. Görlitz, c'est la dernière ville d'Allemagne de l'Est qui est partagée par la Neisse de la Pologne. De l'autre côté, on arrive donc à Zgorzelec, qui est en Pologne. Et si on continue à voyager en Pologne, on arrive en Silésie. Or, la dernière gare s'appellera la Schlesische Tor, la porte de Silésie.
Et là, ce qui est étonnant, c'est la Turkish Bank. C'est-à-dire que c'est la banque turque. Il y a une banque turque ici dans Kreuzberg parce qu'il y a une population très importante de Turcs dans ce quartier. Mmh.
Très très difficile à déterminer puisqu'il y a 124 000 personnes qui travaillent, mais ils ont des femmes, des enfants, et il y a les gens au noir, on ne saura jamais. Officiellement, ils ne veulent connaître que 124 000 personnes. Mais il n'y a pas qu'une banque turque, ça c'est celle qu'on voit maintenant, mais il y en a beaucoup à Kreuzberg, de ces petites banques-là.
Là, c'est assez curieux ce qu'on voit là. Il y a une grande photo, une dame, je ne sais pas si c'est une publicité, dans ce café qu'on voit là. Bülent Ersoy.
On dirait une réclame pour des bijoux, quelque chose comme ça, mais c'est une publicité tirée d'un journal turc. À part ça, tout le reste est terriblement berlinois. Il n'y a rien qui a été changé, on n'a pas rénové ni restauré. Très souvent, les Turcs ont pour leur petit centre des cafés qui sont restés tels quels. Ils ne trouvent pas nécessaire de changer le décor. Et les graffitis, c'est pas des trucs qui sont restés depuis 68 ou je sais pas quoi. C'est tous les jours que les gens graffitent. Ils n'arrêtent pas, on dirait qu'ils sont frénétiques. Et ici, si vous voyez, c'est écrit « Nie wieder Deutschland », plus jamais l'Allemagne. C'est quelque chose qui est inévitablement est nouveau, parce que ça, ils ont mis après la chute du mur.
Après, il y a une phrase, c'est « Revolution ist die einzige Lösung ».
La révolution est la seule solution. Alors ici, on croit encore à la révolution, et bien voilà. Et
là-bas, quelque part sur un mur, il y en a un qui est superbe, qui dit « Scheiße Nazi », merde aux nazis.
Ça peut même être des Turcs qui ont écrit ça, parce que de temps en temps, les Turcs se rebellent contre certaines réactions xénophobes. Et ici, j'ai rencontré un Turc qui voulait vraiment aller casser la tête à tout le monde dans un café parce qu'on interdisait l'entrée aux Turcs. Quand il a su que c'était comme ça, il voulait entrer et vraiment faire des grabuges. Et il a dit, bon, aujourd'hui, je ferai rien, mais demain, on va avec 3 ou 4 copains et tu en entendras parler dans les journaux.
Il y a une ambiance assez dingue. Hein. Ce qui est frappant, c'est un poêle, un charbon peut-être à bois avec des tuyaux de poêle qui sont là. C'est tout à fait les bistrots marginaux des années 60. Au dos de la porte, il y a une tête de mort et une toute petite affichette avec une non au fascisme, avec une croix gammée, un point qui écrase une croix gammée. Au fond, il y a des gars qui sont en train de jouer au billard. Et une bande de mecs un petit peu éclopés, un petit peu bourrés, un petit peu une ambiance un petit peu pied-beau, paumé, quepon, after quepon, after punk. Moi, j'ai jamais vu cette pratique de servir la bière en 3-4 fois. Pour arriver à servir une bière, c'est... On met un quart d'heure, hein, c'est aussi sérieux presque qu'à Dublin là. Hein. C'est la Schulta, ils sont là très sérieusement.
Si ça dure seulement 10 minutes, ça sera une mauvaise bière. D'ailleurs, si les bières arrivent trop vite, les gens disent, dis donc, ils pourraient la faire un peu plus correctement. On laisse tasser la mousse, on en remet, on laisse tasser, on en remet 3, 4, 5 fois. Et on a l'impression qu'il y a encore toujours de la place pour de la mousse, c'est assez marrant.
Il y a exactement les mêmes affiches, les mêmes graphismes que ceux qu'on pouvait voir en 70, 12 chez nous. Et pour me donner raison, il y a un personnage qui vient de rentrer, tout à fait punk, tout à fait anard, tout à fait destroy, avec un blouson de cuir, avec le A de anarchie dans le dos, des cheveux longs, un pantalon militaire avec des grosses poches. J'ai 20 ans de moins.
Voilà, c'est une ronde de nuit dans Kreuzberg, un quartier cul-de-sac, qui est en fait le cœur de Berlin, Stadtmitte, mais un cœur coupé en deux depuis 28 ans. Le cœur de Berlin est fendu en deux par ce mur comme une hache. On enlève la hache et quelle forme aura la cicatrice? Est-ce qu'on l'oubliera? Est-ce qu'il faut oublier? Est-ce qu'on peut se souvenir? Est-ce qu'on peut toujours rabâcher? Je me souviens, je me souviens, je me souviens, que ce soit à Berlin, à Paris ou ailleurs. Er glaubt alles, was er anfassen kann. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum. Betrachten die Wände aufmerksam. Suchen da auf Bahn um Bahn nach Druck und Rechtschreibfehlern. Könnten nicht mal ihren Namen ziffern. Auf ins nächste Geschoss. Welches Wunder nie fertiggestellt, nur über die Treppe erreicht werden kann. Lagern Irrtümer, die gehören der Firma. Damit kappen sie die Böden an, die darf keiner ran. Viertes Geschoss. Hier lebt der Architekt, der geht auf in seinen Plan. Dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Es reicht.
On est tout près de la Oranienplatz. On est en train d'entrer dans la maison la plus graffitée de Kreuzberg. Sur 2 étages tout le long des murs jusqu'au 3e même étage, c'est bourré de graffitis dans plusieurs langues. Enfin, il y a du turc, de l'allemand, de l'anglais, mais aussi d'autres langues. Au 2e étage, il y a une grande salle de billard super traditionnelle avec une vingtaine de tables. C'est merveilleux.
Vingtaine de billard?
Oui, environ. Oui. C'est très très grand. Et au premier étage, un dancing qui s'appelle Poubelle et qui ramasse vraiment...
Crash.
trash, voilà. Qui ramasse tout le trash du quartier, c'est assez drôle.
Bon, écoute, on va aller jouer au billard et danser au trash. Et là, ça commence tout de suite. Ah oui, il y a des graffitis, c'est assez étonnant. C'est vraiment trash. Alors, mais trash, le nom du dancing est simplement écrit avec des autocollants collés sur le béton, et d'ailleurs plutôt décollés que collés. Là, c'est un pochoir, héroïne Rouse contre l'héroïne, et il y a un autre pochoir qui représente un point qui casse une seringue.
La plupart des maisons qu'on voit ici sont d'anciennes fabriques. On se croirait vraiment au fond de l'Est parce que ce sont des toutes petites fabriques finalement comparées aux fabriques qu'on connaît depuis, qu'on a construit depuis. Et c'est resté tel quel depuis 40, 50, 60 ans. Parce qu'ici, comme disent certaines personnes du quartier, on est au cul de Berlin-Ouest. Vraiment parce qu'on a le cul contre le mur. Alors que peut-être un jour, qui sait, on sera au cœur de Berlin. Qui sera la métropole de l'Europe, donc on sera au cœur du monde.
Là, il y a un truc en face, une boîte, avec des néons rouges, violents. Ça rappelle un petit peu les boutiques d'Amsterdam ou certaines boutiques de Bruxelles. Et il y a une banderole avec écrit « Homo Bar ».
Oui, ça passe pour un des endroits les plus branchés de Kreuzberg. Il s'appelle Oranien Bar, tout simplement, du nom de la rue. Et c'est écrit Homo Bar, il ne faut pas vous attendre à trouver des homosexuels ici, enfin il y en aura quelques-uns, comme partout, mais c'est surtout pour empêcher les touristes d'entrer.
On est en train de se faire la, vraiment, la totale alternative, il y a une golf là qui est barbouillée, décorée, comme on en voyait beaucoup à Paris il y a pas mal d'années. C'est vraiment Amsterdam 1974.
Oui. Peut-être même avant. Ici, ils ont fait des petites décorations. Les gens qui travaillent dans le bar ont fait eux-mêmes les petites décorations qui sont contre le mur. C'est plein de couleurs. Ça rappelle les îles, les cocotiers, les bananes, et on ne sait pas trop ce que c'est.
On ne sait pas trop ce que c'est. C'est la ville, Kreuzberg, dans Berlin, vue par ses signes, par ses maquillages. On ne sait pas ce que c'est, vélo alternatif, poubelle, boulangerie anarchiste, bijouterie nécrophile, graffiti, contre-culture. Ici, les années 70 continuent, carnet de voyage dans la Mitteleuropa. Une ville vue par ses signes, par ce qu'elle essaye de dire, par ses maquillages, ses tatouages, ses cicatrices. Des murs, hein. Parce que là, les graffitis, là on a insurrection avec le rond d'anarchistes, et donc des anarchistes qui nous disent qu'ils sont pour l'insurrection en somme. Et là à côté, dis-le toi.
La vendetta sera più dura, la vengeance sera plus dure.
Et au bout de cette phrase, il y a la faucille et le marteau. Merci Gorbi. Mais l'agitation politique est toujours assez violente hein, quand même dans ce quartier de Kreuzberg. Là, on a une façade entière sur laquelle on voit des poches de peinture qui ont été projetées, qui ont pissé sur le mur. Une façade blanche avec comme des taches de sang comme ça qui ont pissé. Et il y a une banderole qui dit « Kein Kohl, kein Krenz, kein Daimler Benz ». On ne veut pas de Kohl, on ne veut pas de Krenz et on ne veut pas de Mercedes. Qu'est-ce qu'ils veulent à ton avis, ces gens?
Ils ne veulent pas du capitalisme sauvage, mais à part ça, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est sanglant.
Là,
il y a une façade assez grise, assez triste, un lampadaire urbain là, et puis une petite fenêtre avec un tas de petites lumières dans un coin comme ça, une petite pétillement de lumière de guirlande de Noël. Et ça, tu me dis ?
Ça, cette façade, elle n'a pas toujours été triste. Quand elle était claire, qu'elle était entretenue, elle devait être merveilleuse. Elle est pleine de lambris, de stuc. C'est la maison berlinoise par excellence. Et à l'intérieur, quand on entre, qu'on passe par le porton, on trouve deux petites fabriques. C'était une fabrique, tout bêtement. Une jolie petite fabrique avec belle façade. On pourra rentrer tout à l'heure. Et en face, il y a la Elephanten Press, qui est une maison d'édition gauchiste, qui a eu un grand renom pendant très longtemps, et qui a aussi une façade très recherchée, avec des tourelles, des petites décorations baroques.
Ok, allons-y, allons-y.
Elephanten Press.
Ça, c'est extraordinaire parce que on a la réponse à tout ce qu'on se dit. Dit Ilion, les bonnes morts, les idées vivent encore.
Voilà, il continue de taper sur le mur. C'était Berlin il y a 20 ans, vu par la basse J'y suis. C'était les débuts de la basse J'y suis, dans l'euphorie de la chute du mur, l'euphorie, la stupeur et la peur aussi. Bien sûr, c'est les vainqueurs qui racontaient l'histoire et c'est les vainqueurs qui la racontent toujours. Ils vont remettre le couvert le 9 novembre prochain. Mais qui eût cru en ce temps-là, en ces journées-là, il y a 20 ans, que l'idéal socialiste, celui de Rosa Luxembourg, survivrait à cet effondrement. À l'époque, nous avions rencontré Harald Hauser. Harald Hauser était un dramaturge, un ami de Bertolt Brecht. Il était encore inscrit au Parti communiste d'Allemagne de l'Est et il avait 78 ans. Il est mort depuis. Écoutez-le.
L'Allemagne et le peuple allemand n'a jamais connu la démocratie. Aucune démocratie. Nous avons fait des révolutions en 1848, en 32, en 48, et ensuite en 1919, mais toutes les révolutions ont échoué. Et toutes les révolutions ont échoué très rapidement. Vous avez, il y a deux siècles, vous avez fait une grande révolution qui finalement aussi n'a pas immédiatement réussi, qui a également échoué. Mais
de cette révolution est sorti le sens de la responsabilité républicaine, démocratique dans toute l'Europe. Tandis qu'en Allemagne, jamais. Ça n'a pas pris. C'était des intellectuels, oui. Il y a des philosophes, il y a des écrivains formidables chez nous qui ont pris ces idées. Mais ce n'est pas pénétré dans le peuple. Ce n'est pas pénétré dans le peuple. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre ce que c'est la démocratie. Et ils ne le savent pas encore. Le terrible, c'est que ce qui nous est arrivé, c'est qu'en 1945, quand nous sommes rentrés des camps de concentration, des prisons, de l'illégalité, de la clandestinité, des champs de bataille d'Espagne et de partout, et d'avoir voulu faire la démocratie, les communistes, avec les social-démocrates ensemble, nous avons cru que maintenant, vraiment, on va faire un État formidable, un État socialiste, au moins un État antifasciste, avec des traits socialistes, qui rendra absolument impossible un retour. Et voilà ce qui nous est arrivé, c'est que nos dirigeants, parmi eux des gens qui ont souffert dans ce Hitler, qui étaient en prison, comme Honecker, étaient les victimes de leur ambiance du pouvoir. Des victimes tragiques, et plus tragiques pour nous que pour eux, le pouvoir leur était tout. Ils ont volé, ils étaient corrompus, ils n'ont pas fait du socialisme, ils ont fait quelque chose qu'on ne peut même pas appeler un socialisme de direction ou de conseil administratif. Ce n'était pas un socialisme, c'était... je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas, je peux pas vous dire ce que c'était. Les premiers 10 ans, c'était différent. Les premiers 10 ans, hein, de 45 jusqu'à la mort de Staline en 53, ou quelques années encore après, il y avait tout de même des traits de démocratie. Mais à partir de la mi-50, c'était fini. C'était fini. C'est la prise de pouvoir d'une clique, d'un clan, d'une trentaine de personnalités qui se croyaient les dieux. Ils savaient tout. Comme les obéraux, comme les anciens féodaux.
Alors, à partir de ce moment-là, vous étiez lié, vous, avec le SPOD à cette époque-là?
Ah ben, bien sûr. Mais j'étais, à partir du moment où j'ai compris aussi, j'ai pris longtemps pour le comprendre, mais c'était tout de même en 59 que j'ai définitivement compris qu'il fallait une fausse politique. J'ai eu une discussion j'étais la première et la seule fois d'ailleurs, où j'étais au Politburo, dans le bureau politique du Comité central, invité presque dit Adolf Hitler, c'était pas Adolf Hitler, c'était Walter Ulbricht. Et c'est la seule fois. Parce que j'avais dit que c'était pas fini, le stalinisme. Khrushchev avait publié tout sur Staline, le 20e congrès, en 56, et c'était fini. Il m'a dit, il ne fallait plus discuter sur Staline, puisque c'était le culte de la personne, c'était terminé. Et alors moi, j'ai dit le contraire. J'ai dit, c'est pas terminé, parce que c'est pas Staline seul, c'est le stalinisme qui survit, il faut continuer à le combattre. Et alors ça m'a valu, et je suis très heureux d'ailleurs, maintenant, dans le temps, je ne l'étais pas, ça m'a valu de ne plus avoir aucun poste de parti. À partir de ce moment-là, je n'avais aucune fonction dans le parti jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez réussi à, j'allais dire, tenir, oui, jusqu'à ces derniers jours.
Oui, vous savez, j'aurais pu faire plus. Il y en a qui ont fait plus, qui sont allés en prison, comme Walter Janka qui est rentré maintenant, qui est un homme formidable, qui a été condamné à plusieurs années de prison, dans des conditions terribles, qui est complètement... réhabilité maintenant, on a reconnu sa période de membre du parti, etc., parce qu'il était sorti du parti. Mais j'ai essayé par un autre moyen, comme beaucoup l'ont fait, par le moyen d'écrire, d'aller jusqu'à la limite, la plus loin, ou la plus proche, ça dépend du point de vue, de la vérité. C'est-à-dire, j'ai écrit des pièces qui n'ont pas été jouées, mais ils ont été lues dans des théâtres. Il y a plusieurs pièces qu'on n'a pas réalisées, mais on les a lues. Les acteurs l'ont lu dans les clubs, etc. Parce qu'on n'a pas joué les dernières pièces. Et alors, toutes les pièces que j'ai écrites, il n'y en a pas un dont j'aurais pu besoin, aujourd'hui, si je réfléchis, d'avoir honte. C'était des pièces humanistes. J'ai jamais dans ma vie écrit quelque chose de positif sur Staline. Et pourtant, j'étais rédacteur en chef d'une revue mensuelle de l'association d'amitié entre la RDA et l'Union soviétique. Naturellement, je n'ai pas écrit toute mon opinion, c'était impossible. Ça n'aurait pas paru, et puis j'aurais été exclu. Mais j'ai évité ces éloges du socialisme russe sous Staline. Ça, j'ai pu l'éviter. Et que j'ai fait une gaffe une fois, quelque chose qui m'a... Aujourd'hui, ça me plaît beaucoup dans le temps, ça m'a beaucoup gêné, parce que j'ai publié une fois, en octobre, la première page, avec une merveilleuse photographie d'ours polaire dans le jardin zoologique de Moscou. Parce que c'était une belle photo. Et alors, on est venu, tu n'as aucune doigté. Tu t'imagines, en octobre, il faut avoir une photo de Staline, ou au moins de Lénine, n'est-ce pas? Parce que c'est le mois de la Révolution. Des trucs comme ça, c'était pas grave, mais c'est la seule possibilité de faire quelque chose d'autre que ce qui était commandé. J'ai tenu.
C'est tout.
Il a tenu, Harald Hauser. Il a tenu. Le violon que vous entendez derrière, que vous avez entendu derrière, c'est au Palace Hotel. À côté de nous, il y avait un violon qui jouait et un pianiste qui jouait ses petites mélodies. Là, ce que vous entendez, c'est un autre bruit. C'est celui du mur, Harald Hauser. Qu'est-ce que vous avez fait le soir où le mur est tombé?
Moi, j'avais pas besoin d'aller à Berlin-Ouest parce que je pouvais aller quand je voulais. Moi, j'avais une position un peu spéciale. Comme j'étais venu de l'Allemagne fédérale, volontairement, j'avais besoin de rester ici. Je vivais à Fribourg, mais je suis venu à Berlin. Ma mère était ici, mon frère était là, mon père était venu aussi. Et je me suis marié ici, alors je suis resté. Mais j'avais pas besoin de rester. J'aurais pu aller où je voulais. Alors, pour moi, Berlin-Ouest, c'était pas intéressant. D'abord, j'allais très, très rarement. Quand je voyageais, j'allais en Allemagne fédérale, j'allais dans mon forêt noire, et j'allais à Francfort, à Munich, etc.
Pourquoi vous dites que ça ne m'intéressait pas?
Parce que Berlin, je vous dis la vérité. Quand j'ai fait mes études, en 33, l'hiver 32-33, quand Hitler va pouvoir, c'était le semestre d'hiver que j'ai fait ici. Et j'ai vu Berlin. Et je me suis presque juré, je n'ai pas tenu le coup, juré que je n'irai après avoir terminé mes études et en m'installant en tant qu'avocat, je voulais devenir avocat, je m'installerai dans n'importe quelle ville d'Allemagne et jamais à Berlin. Je trouvais Berlin hideux. Ça ne m'a pas plu, cette ville ne m'a jamais plu. C'est un hasard de l'histoire qui m'a amené ici. Ma mère était ici, mon frère était ici, mon père est revenu d'Angleterre ici, et puis j'ai trouvé ma femme ici, alors je me suis marié, je suis resté.
Donc ce jour-là, le 9 novembre...
Novembre a été quelque chose de formidable.
Est-ce que vous êtes allé...
Non, je ne suis pas allé, parce que je pouvais aller à Potsdam quand je voulais. Mais ma fille est allée avec son mari et ses petits-enfants, et sont allés, je les ai assistés, mais je ne suis pas allé. Je suis allé maintenant, il y a quelques jours, pour rencontrer un ami.
À quoi vous pensiez ce jour-là? Qu'est-ce que ça vous a fait? Quelle émotion? Ou peut-être quelle déception?
Non, c'était pas une déception. Au contraire, c'était une émotion très profonde. Je me suis dit, enfin, enfin. Parce que le peuple était tellement enfermé dans cette Allemagne démocratique qui était toute petite. Parce que nous étions, dans le temps, nous appelait le champ de patates de l'Allemagne. Parce que nous, ce que nous avions, c'était, nous n'avons pas d'usine. Nous avons eu 2-3 usines, c'est tout. Et toute la richesse industrielle est dans la Rhénanie ou dans la Ruhr. Après la guerre, il y avait 100 hauts fourneaux intacts en Allemagne fédérale, et un seul chez nous. Alors ça, c'est à peu près la relation. Alors, naturellement, ce peuple était enfermé. Il voyait tous les jours à la télévision et à la radio, etc. Et par les amis et par les parents, etc. Comment on pouvait vivre en Allemagne fédérale? Il y avait des bananes, des oranges, il y avait des voitures formidables. C'était chez nous, on avait des petites trabanes qui fait un vacarme horrible et qui pue. Et on n'avait pas d'oranges, etc. Alors, c'était un éclat de libération. J'ai tout à fait apprécié ça. Mais en même temps, j'ai senti qu'il y a un danger là-dedans. Un danger que la chose se retourne. Et c'est un des faits maintenant, c'est que les républicains, ils s'appellent les républicains en Allemagne fédérale, c'est les nazis, c'est vraiment une offense au monde de la République. Les REPS, mais ils envoient des tonnes de matériel, de tracts, de papiers, de journaux, etc. Vraiment des fascistes, c'est un mouvement fasciste. Et maintenant, ils peuvent le faire ouvertement. Alors, j'ai senti à ce moment-là déjà qu'il y a un grand danger. Parce que ce peuple qui n'est pas du tout habitué à la démocratie, qui n'a vu que les merveilles du capitalisme dans la radio, dans la télévision et de tout ce que les gens racontaient, que maintenant il va tout oublier. Et c'est en partie arrivé.
À 78 ans, Harald Hauser, que vous entendez, ce dramaturge, lui aussi il a deux ennemis, Nazi und Stasi. Stasi, la police secrète, et les nazis. L'extrême droite, ça c'est la grosse hantise. Tout le monde parle de ça ici. J'ai l'impression d'ailleurs que depuis très longtemps on en parle. Mais on en parle énormément en ce moment. Alors bien sûr, on se dit, mais Harald, écoutez-moi, l'histoire ne repasse pas les plats. En Allemagne non plus, elle ne repasse pas les plats. Est-ce que c'est le même fascisme que celui contre lequel vous êtes battu? Est-ce que c'est le même danger?
Il y a les mêmes dangers, mais il faut faire très attention. Mais tout de même, entre-temps, il y a un changement dans le monde. Il y a un changement en Europe. C'est tout de même De Gaulle qui a dit l'Europe... Ça commence à l'Atlantique et va jusqu'à l'Oural. C'est De Gaulle qui a dit ça, qui n'est pourtant pas un socialiste ni un communiste. Et la maison d'Europe dont parle Gorbatchev, c'est rien d'autre que, sur un plan supérieur, la même idée. Donc je pense que la situation en Europe a beaucoup changé. Mais en Allemagne, c'est très difficile. Si les grands capitalistes peuvent maintenant arriver chez nous, peuvent investir leur argent, ils peuvent nous acheter, nous n'avons rien. Nous sommes pauvres. Nous avons fait une politique depuis au moins 30 à 35 ans. Nous avons fait une très mauvaise politique, une politique économique impossible. Nous sommes par terre. Alors ils peuvent arriver avec leurs milliards, ils peuvent nous acheter. Et ils ont un intérêt à avoir des mouvements d'extrême droite, c'est évident. Je ne dis pas que tous les capitalistes sont idiots, parce qu'il y a des capitalistes très bien, comme M. Wolf von Amerong, qui depuis 30 ans fait des affaires avec l'Allemagne, avec nous, avec la RDA, et d'autres. Je ne dis pas que tous les capitalistes sont des fascistes, mais il y a parmi eux, naturellement, des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait un mouvement de droite, d'extrême droite, pour absolument exterminer tout ce qu'il y a, tout ce que nous avons malgré Staline et malgré Ulbricht et malgré Honecker, tout ce que nous avons appris de social, de droit social. Le droit social, c'est nous, c'est le meilleur du monde. Chez nous, nous ne payons pas un marque pour la médecine, pour le docteur, pour rien, pour une opération terrible, vous ne payez absolument rien. Ça n'existe nulle part.
Alors vous pensez que ceux de vos concitoyens qui sont partis à l'Ouest, ceux certains qui sont morts en essayant de fuir au cours de toutes ces années, ils sont très nombreux, ils ont été quand même très nombreux, vous pensez qu'ils ont eu tort, ils auraient dû rester ici?
Ils ont tort, ça, il n'y a aucun doute qu'ils ont tort.
Mais ils sont très nombreux.
Mais je les comprends, parce qu'ils n'ont pas pensé de façon réaliste, de façon réfléchie. Ils voient qu'en Allemagne fédérale, si on a des coudes, comme on dit chez nous, si on peut travailler avec les coudes, on peut arriver à être riche. On peut avoir une Mercedes, on n'est pas obligé de marcher, de rouler dans une trabane. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des choses qui les ont vues. Ils ont vu un paradis. Et il est un fait que dans toute l'Europe occidentale, l'Allemagne fédérale est le pays le plus riche. Il est plus riche que la France, il est plus riche que l'Angleterre. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Les Américains savaient parfaitement ce qu'ils faisaient à la fin de la guerre. Moi, j'ai vécu dans cette zone là-bas. Et j'ai vu des officiers américains qui ont fait la guerre. On les a retirés après la guerre. On les a remplacés par d'autres qui venaient d'Amérique, qui n'ont jamais fait la guerre. Parce qu'on faisait une nouvelle politique. On faisait la politique de la grande fenêtre, de la richesse de l'Allemagne fédérale pour refouler le socialisme. Même les présidents, ils l'ont toujours dit. Il faut le bec, le rollback. Le rollback, c'est refouler le social, les idées socialistes. Et ils l'ont réussi. Nous n'avons pas eu de plan Marshall. Nous avons payé toutes les réparations à l'Union soviétique. Au fond, il y a un grand économiste de l'Allemagne fédérale à Bremen qui a publié, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, il a publié dans un journal que l'Allemagne fédérale doit plus de 170 milliards de marques fédérales, de l'Allemagne fédérale, à nous, parce que nous avons seuls payé les réparations à l'Union soviétique. Nous n'avons eu aucune aide de l'Ouest et nous avons eu un haut fourneau à la fin de la guerre contre 100 hauts fourneaux dans la Rhénanie, dans la Ruhr. Les Américains ont investi des milliards pour avoir Opel. Opel, la grande firme allemande, elle est américaine, entièrement américaine. Les Russes ne pouvaient pas avoir 20 millions de morts. Un pays rasé jusqu'à Moscou, jusqu'à Leningrad, jusque dans le Caucase. Ils ne pouvaient pas nous donner des milliards. Alors nous étions vraiment les enfants pauvres dans ce champ de patates, comme on appelait déjà le champ de patates avant la guerre. N'est-ce pas? Ça tombe dans un vide et dans une avidité de vivre. Alors ils voient qu'en Allemagne fédérale, quand on a de l'argent, on vit bien, on vit beaucoup mieux qu'on veut vivre chez nous. Alors ça les a attirés. C'est la majorité, pas tous, mais la majorité. Et aussi, il y en a que l'oppression mentale, l'oppression intellectuelle qui existait vraiment sous les régimes de Ulbricht et de Honecker, les a tracassés, il n'y avait aucune ouverture, il n'y avait pas de l'air frais, on ne pouvait pas écrire ce qu'on voulait, même nous, si je voulais écrire un article, j'écrivais beaucoup d'articles, un article qui touchait un problème qui était vu différemment de M. Ulbricht et de M. Honecker, il n'était pas publié, on l'a falsifié. Alors, cette étroitesse, ça pesait sur les gens, économiquement, moralement, et maintenant, ils sont sortis, et il y en a d'ailleurs qui reviennent, mais c'est très doucement. Il y en a de temps en temps, il y a tout de même, il y a plusieurs milliers qui sont revenus depuis, mais c'est rien contre 300 000.
Eh oui, c'est dangereux et c'est difficile de jeter la mémoire avec l'eau du bain de foule. Mais franchement, entre nous, aujourd'hui, en 1990, comment peut-on encore être communiste?
Jésus-Christ est né il y a 2000 ans. Dans l'année 1187, le concile de Vérone a décidé le commencement de l'Inquisition. Quelques 50 années après, c'est Grégoire IX, le pape Grégoire IX, en 1231, a donné aux Dominicains l'ordre de commencer avec l'Inquisition. L'Inquisition qui a massacré des millions de catholiques en faisant le contraire de ce que la Bible dit. Cette inquisition a duré presque 4 siècles. Pendant 4 siècles, la religion chrétienne était la barbarie pure. Et est-ce qu'elle est morte? Est-ce que le christianisme est mort? Il n'est pas mort. Il revit. Il existe. Et c'était 4 siècles de massacre. 4 siècles de barbarie. Est-ce qu'ils ont tué le christianisme? Pas du tout. Et nous avons eu 50 ans de Staline. Même pas de Staline seul, parce qu'il est mort déjà en 1953, mais de stalinisme, et Vous croyez que de ça meurt une idée qui est issue du christianisme? Tu ne dois pas tuer, tu dois aimer ton voisin. Mais qu'est-ce que c'est autre, le manifeste communiste? C'est seulement à nos temps la même chose. La paix, l'amitié, la fraternité, l'égalité, tout ça. C'est la Révolution française. Mon Dieu, pourquoi elle ne peut pas mourir d'une déformation terrible, tragique que nous avons subie? Elle n'a pas déformé l'idée, elle a déformé la réalité dans certains pays, en Union soviétique et chez nous et dans d'autres pays socialistes. Et maintenant, nous allons recommencer à vraiment revenir aux sources. Et c'est les sources qui vont nous diriger les décades qui viennent. Et je suis absolument convaincu que le socialisme vaincra.
Dans le cadre de la rétrospective de la Bassie J'y suis, c'était une nouvelle diffusion de reportages tournés il y a 20 ans à Berlin. Merci à Michel Soulier, à Gaël Bessière et Ludovic Duneau. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Michel Thomas, réalisation Coyne Guyen et Raphaël Moutarde, assisté d'Agnès Lebotte, chef du répondeur Catherine Pinto. Je vous rappelle le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis pour vous laisser tous vos commentaires. 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Il paraît que c'était mieux juste après le mur, que les punks étaient plus frais, les lieux plus purs, que tout le monde se mélangeait à toute allure cette nuit-là. Où j'ai traîné n'importe quelle toute petite lumière à tour de corps et de bras. On dit toujours que c'était bien mieux avant, mais la vie est encore là béante tout autant. C'est la vie des hommes qui prend des coups dans le ventre, on les retrouve à quatre pattes dans les boutiques du centre.
All you saw was still blazing and blazing. My two hands are still moving and waving. Frédéric is still charming, oh so charming.
Oh Lord.
Better than driving in the street, you lead a belly night. Peur de skunk lesbienne, fière de te voir danser et chanter comme ça.
Écoutez.
Et pourtant, ce n'est qu'une infime partie de tous les millions d'euros que Euromillions met en jeu vendredi.
Près de 77 millions d'euros. 77 millions.
J'adore ce bruit.
Estimation non garantie des gains à partager en 1, voire règlement.
Euromillions.
Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
Française des Jeux.
Aujourd'hui est pourtant juste un jour comme les autres. Vous allez juste faire quelques courses. Vous pensez juste au menu de ce soir. Vous traversez juste sans regarder. Vous êtes juste dans le coma. Sur la route, il n'y a pas de petite infraction. Respectons les règles. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du ministère du Développement Durable.
Qu'est-ce que vous répondriez à une petite voix qui vous dirait
« Allez, pour une fois, tu peux bien oublier de déclarer un employé. Si tu l'embauches juste pour quelques jours en période de suractivité, ça va t'éviter les charges. C'est toujours ça de moins à payer, non ?»
De moins à payer ? Mais au contraire, frauder, on y perd tous. Mon entreprise, qui peut être lourdement sanctionnée. Le salarié, qui est privé de ses droits. C'est toute la société qui en subit les conséquences.
C'est dans l'intérêt de tous que les pouvoirs publics se mobilisent encore davantage pour lutter contre la fraude. Parce qu'agir contre la fraude, c'est agir pour plus de justice.
Ceci est un message du ministère du Budget, des Comptes Publics et du réseau URSSAF.
France Inter présente Thomas Dutronc.
Comme un manouche sans guitare.
Comme un manouche sans guitare, le film.
Quand t'es pas là, je suis comme ça.
Entre le Bataclan à Paris et la Corse, une lecture singulière du spectacle de Thomas Dutronc.
Comme un château sans la Loire, une Normande. Sans armoire.
Retrouvez Thomas Dutronc dans le programme musical de France Inter.
Dans quelques minutes, votre rendez-vous quotidien avec Frédéric L'Odéon pour Carrefour de l'Odéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations sont présentées par Émilie Defay. Bonjour.
Bonjour. Pas de commentaires en marge du sommet de Bruxelles. Nicolas Sarkozy n'a pas souhaité s'exprimer sur la situation judiciaire de son prédécesseur, Jacques Chirac, renvoyé en correctionnel dans l'affaire des chargés de mission de la ville de Paris. Un renvoi légitime pour la gauche, l'extrême droite et le monde judiciaire. Jacques Chirac ne peut éternellement échapper au cours normal de la justice, a ainsi déclaré le député PS Arnaud Montebourg. Seul Ségolène Royal s'est démarqué de ses collègues socialistes. Cette décision n'est pas bonne pour l'image de la France, selon elle. Des arguments également entendus à droite, notamment dans la bouche de Dominique Payet, le porte-parole de l'UMP. Les députés UMP Jean Tibéré et Jean-François Copé se sont quant à eux dit peinés par cette décision. Le sommet de Bruxelles s'est terminé sur un accord sur le climat. Les 27 ont finalement trouvé un terrain d'entente sur l'aide à apporter aux pays pauvres pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils ont convenu de participer à un fonds de 50 milliards d'euros et les pays d'Europe de l'Est contribueront moins que les autres. Autre gros dossier de cette réunion, le futur président de l'Union européenne. Il sera nommé au cours d'un sommet extraordinaire d'ici la fin de l'année. La France et l'Allemagne soutiendront le même candidat, a annoncé Nicolas Sarkozy, pour autant donner de nom. Il est attendu sur le tarmac de Roissy d'ici 16h30. Le premier A380 siglé Air France a décollé il y a une heure à peu près d'Hambourg, où il a été livré ce matin à la compagnie aérienne. Une arrivée qui tombe à pic pour Air France en cette période de crise. L'A380 constitue un atout stratégique pour la compagnie qui est à ce jour la seule en Europe à détenir le gros porteur. Premier vol commercial prévu le 20 novembre entre Paris et New York. Qu'on ne me traite pas de monstre, ce sont les derniers mots de Francis Évrard avant que la cour d'assises du Nord ne se retire pour délibérer. Le verdict est attendu dans la soirée. Ce matin, le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Indifférent entre un employé et son supérieur à l'origine d'un drame, ce matin à Toulouse, un homme a abattu son patron et le fils de celui-ci vers 7h dans une entreprise sous-traitante de la société UPS. Le tireur a été interpellé, il venait de démissionner et devait effectuer aujourd'hui son dernier jour. C'est devenu la nouvelle pomme de discorde au sein de la majorité, le droit à l'image collective, un avantage fiscal pour les sportifs supprimé hier par l'Assemblée. Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP, souhaite aujourd'hui que le gouvernement revienne sur cet amendement. La mesure était pourtant soutenue par plusieurs ministres, dont Roselyne Bachelot et Éric Woerth. Et puis du monde attendu sur les routes aujourd'hui pour le week-end de la Toussaint. La journée est classée orange par Bison Futé. Le week-end de la Toussaint qui est traditionnellement l'un des plus meurtriers de l'année. Attention, les contrôles routiers seront renforcés.
France.
France Inter présente Oxmo Puccino, l'arme de paix.
La vie se tire des traits, vivre les sacrifices si près.
En concert à l'Olympia le 7 décembre et en tournée dans toute la France.
Encore un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville un tissu cousu de périphérique, soleil du Nord.
Retrouvez Oxmo Puccino dans le programme musical de France Inter.
Nous autres.
Eisenhüttenstadt était la ville modèle de la RDA.
Zoé Varier.
Une cité socialiste idéale où les ouvriers espéraient créer un monde nouveau. 20 ans après la chute du mur, que reste-t-il de ce rêve ?
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Il est tout juste 16h04 sur France Inter. Vous retrouvez Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un menuet ? C'est une danse française à trois temps d'origine populaire. Elle a été introduite par Lully à la cour de Louis XIV et elle a fini par écarter les danses précédentes comme la courante et la pavane en imposant en même temps un nouveau genre de ballet plus gracieux qui s'est répandu dans toute l'Europe. Et puis après, le menuet est entré aussi dans la symphonie, dans la sonate et Haydn en a fait aussi un mouvement important, l'avant-dernier de la symphonie et dans le quatuor, il figure aussi. Alors le menuet, en principe, danse assez lente, mais parce qu'elle a été pratiquée par les nobles de la cour, donc vêtue de riches atours, alors que, paraît-il, autrefois, quand c'était une danse populaire, elle était plus rapide. Bon, on pourrait discuter là-dessus, puis rechercher beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est que le menuet a été bousculé littéralement par Beethoven dans sa première symphonie. Il le fait jouer très vite, ce qui fait que ça devient carrément un scherzo. J'expliquerai le scherzo après avoir entendu ce menuetto, c'est dit en italien, de la symphonie en ut de Beethoven. Menuetto, menuet de la première symphonie de Beethoven par l'ensemble orchestral de Paris, dirigé par John Nelson. Vous avez entendu une partie plus douce au centre, ce qu'on appelle le trio, parce qu'autrefois, ce passage a été joué par trois instruments seulement pour alléger un tout petit peu la puissance générale, soulager l'oreille, on va dire. Voici un autre menuetto et trio de la 101e symphonie de Joseph Haydn, symphonie dite l'horloge. Donc, Haydn a été le maître de Beethoven et lui aussi, il a commencé à faire accélérer le tempo du menuet et de fait, le menuet se transforme pratiquement